Ce dimanche, juste après l'Angélus, Benoît XVI s'est exprimé sur son voyage. Le pape doit arriver mardi à Ankara avant de se rendre à Éphèse puis Istanbul.
Desidero inviare un saluto cordiale al caro popolo turco.
Je désire dès maintenant envoyer des salutations cordiales au cher peuple turc, dont l'histoire et la culture sont riches. À ce peuple et à ses représentants, j'exprime mes sentiments d'estime et d'amitié sincère, a déclaré Benoît XVI. Une déclaration d'amitié alors qu'au même moment, plusieurs milliers de personnes convergeaient à Kaglayan, sur la rive européenne d'Istanbul, pour manifester contre la visite du pape à l'appel d'un petit parti islamiste. À la fin de l'Angélus, le pape a également rappelé l'objectif de ce voyage apostolique, rencontrer le patriarche orthodoxe Bartholomée Ier et la petite communauté catholique. J'attends avec une vive émotion de rencontrer la petite communauté catholique toujours présente dans mon cœur et de m'unir fraternellement avec l'église orthodoxe à l'occasion de la fête de l'apôtre André, a en effet ajouté Benoît XVI. Et pour mieux comprendre la portée de cette visite, je vous propose d'écouter l'analyse du père Hervé Legrand, dominicain, professeur à l'Institut catholique de Paris. Il répond aux questions de Bernard de Cotigny, notre envoyé spécial en Turquie, avec qui vous pourrez suivre toute la semaine les étapes du voyage du pape.
Oui, cette visite est d'une importance capitale, puisque le patriarche œcuménique est le premier des patriarches orthodoxes, celui qui coordonne le dialogue avec l'Église catholique. Il est certain que le sens premier de cette visite est au patriarche de Constantinople. De fait, les circonstances ont amené à ce que le pape Benoît XVI ne pourra pas ne pas prêter une très grande attention à sa visite à Ankara. D'une visite purement protocolaire, elle se transforme en une visite qui a beaucoup d'enjeux désormais. Au fond, le discours de Ratisbonne dans l'esprit du pape n'avait rien à voir avec l'islam ou une opinion sur l'islam, et la citation de l'empereur de Constantinople de l'époque était tout à fait latérale. Mais de fait, c'est d'abord la seule chose que les médias en aient retenu. Deuxièmement, ils ont attribué au pape lui-même ce qui était une expression de l'empereur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et troisièmement, je dirais, reprenant là une opinion de M. Schneiderman de Libération, que on a eu probablement là une démonstration en direct de la manière dont un système médiatique qui est vraiment surpuissant et aveugle dans la circonstance peut, en toute bonne conscience, en suivant son implacable logique, provoquer l'étincelle du choc des civilisations. Cette phrase est un peu dure, mais je crois qu'elle n'est pas tout à fait inexacte, parce que de grands dégâts s'en sont suivis. L'image publique du pape dans le monde musulman en a été atteinte, et comme cela ne correspond pas à l'attitude même de l'Église catholique, ni à l'attitude personnelle du pape, et, évidemment, l'étape de la Turquie est une étape extrêmement importante pour que, de la manière la plus claire et la plus sereine, le pape Benoît XVI reprenne les attitudes fondamentales de Vatican II, notamment sur le décret sur les autres religions, de façon qui soit entendue par les mêmes médias.
Alors, au-delà du malentendu, même si le pape s'est expliqué à plusieurs reprises depuis, on a l'impression que finalement le monde musulman, par l'intermédiaire de la Turquie, attend de nouveau d'autres choses de Benoît XVI sur cet argument.
Certainement, c'est-à-dire, il faut se rendre compte que le monde musulman, tout en étant très diversifié, est néanmoins un monde culturel et historique qui se sent atteint dans son honneur, et qui a le sentiment aussi d'un malaise compréhensible. C'est dans les médias d'aujourd'hui, c'est comme si on attribuait aux catholiques français, au moment de la guerre d'Espagne, les horreurs qu'auraient pu faire les troupes de Franco. Et donc, il y a là, dans un contexte politique ensuite, où certains ont vu une intervention chrétienne, par exemple, à la suite des paroles du président Bush, une intervention chrétienne en Irak, il me semble que le pape est dans une situation tout à fait privilégiée pour rétablir les conditions pour se parler avec respect et avec confiance. Là, il a un capital. Quand on pense que Jean-Paul II était opposé à la première guerre du Golfe, opposé également à la guerre en Irak, qu'il a développé de façon très approfondie des rencontres, je crois une soixantaine en tout, avec des leaders musulmans à travers le monde. Je crois que Benoît XVI voudra dire à Ankara que ceci continue et que le monde musulman peut trouver dans l'Église catholique un interlocuteur qui est prêt à entamer et à continuer surtout la conversation.
On peut dire dès lors que cette visite pourrait être bénéfique, donc vu la priorité que représente le dialogue avec l'islam.
La priorité théologique, sûrement au plan théologique du dialogue, est avec l'Église orthodoxe. Mais dans la situation des relations entre l'Église et les sociétés contemporaines et la culture contemporaine, il est évident que si à la fois l'Église catholique à travers le pape et l'opinion musulmane à travers ce qui sera dit en Turquie, bien que la Turquie soit un pays très minoritaire dans l'ensemble du monde musulman, eh bien si ces deux interlocuteurs donnaient un signal comme quoi l'antagonisme n'est pas entre catholiques et musulmans, ou chrétiens plus généralement et musulmans, je crois que ça, c'est effectivement un enjeu tout à fait capital dans un monde où la paix est si menacée, où certaines formes de violence sont si gravement menaçantes.
Alors c'est toute la question finalement, et elle n'est pas nouvelle, bases, de savoir sur quelle base dialoguer avec les musulmans, quelles qualités de dialogue doit-on prétendre, quelle préparation intellectuelle aussi cela suppose-t-il?
Le dialogue avec les musulmans suppose d'abord les qualités de tout dialogue, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser avec respect à toute personne qui elle-même vous adresse la parole. Mon sentiment premier est ceci, que les paroles de Vatican II, que l'Église regarde avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes, ces musulmans qui ont en estime la vie morale, eh bien, je crois que nous devons avoir dans le cœur et l'intelligence cette reconnaissance de l'islam qu'il ne faut pas caricaturer. Il faut en même temps avoir à l'esprit ce que le même Vatican II exhortait tous, à savoir chrétiens et musulmans, à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, de prendre conscience du passé. Parce que si nous ne prenons pas nos responsabilités pour le passé, c'est un travail d'historien, c'est un travail difficile, c'est vrai, mais il faut prendre ses responsabilités parce que c'est ça qui sera garant de l'avenir. Et finalement, je crois qu'ensemble, nous avons quelque chose à faire, comme disait toujours Vatican II, protéger et promouvoir pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. C'est-à-dire, c'est un dialogue qui a un fondement religieux dans les valeurs religieuses et morales de l'islam, mais c'est un dialogue aussi qui a une valeur éthique, c'est-à-dire morale universelle. Et je crois qu'à ce langage-là et à ce discours-là, l'immense majorité des musulmans et les responsables religieux musulmans ne peuvent qu'être très sensibles.
On a parfois l'impression quand même qu'au pied du mur, finalement, la mémoire historique refait surface et que aussi donc, les stéréotypes, les peurs, mais, et pire encore parfois, l'émotionnel.
Vous avez bien raison, mais le dialogue nous fait peur et nous fait envie, qui que nous soyons. C'est le cas de tout être humain, c'est le cas de tout groupe humain. Et de fait, dans ce que j'ai appelé une conversation, car il ne s'agit pas de négociation de la vérité, mais dans cette conversation, je crois que, et c'est là une responsabilité, me semble-t-il, des intellectuels chrétiens, des théologiens chrétiens, mais aussi des intellectuels musulmans et des théologiens musulmans, que de prendre conscience que ce qui perturbe la communication ressort, comme vous l'avez bien dit, très souvent de mémoires historiques qui ne sont d'ailleurs pas des mémoires historiques telles que les historiens les restitueraient, mais qui sont des mémoires construites affectivement, comme vous l'avez dit également. Eh bien, un travail historique, intellectuel, sérieux, devrait, entre responsables, rendre possible une mise à distance de ces émotions, de ces stéréotypes, Pourquoi ? Parce que, comme les hommes de religion et les intellectuels ne sont pas responsables seulement de l'instant, ils sont responsables d'un avenir commun, un avenir qui nous est donné ensemble, dans lequel nous devons vivre ensemble, dans lequel nous vivrons de plus en plus ensemble. D'où cette tâche de plus en plus importante quand d'autres contexte qu'on a appelé la purification de la mémoire, c'est-à-dire essayer n'avoir pas deux poids et deux mesures pour juger nos relations mutuelles. Et alors nous qui sommes religieux, qui parlons de Dieu, qui croyons avoir une mission de la part de Dieu, nous sommes évidemment beaucoup plus requis, il en va de l'honneur de la foi des chrétiens et des musulmans, que d'être capable de faire ce travail, de déminer le terrain de l'histoire passée, d'essayer de le comprendre ensemble.
Au niveau politique, et dans le cas très précis de la Turquie, on se trouve dans une phase d'un processus de possible adhésion donc de la Turquie à l'Europe. Est-ce que ce facteur religieux pèsera dans la balance et peut-être plus lourd qu'il y a 30 ans ?
Il est probable que oui, au sens où il s'est développé des extrémismes dans le monde musulman qui ont pour cible d'abord, en premier lieu, les musulmans eux-mêmes. Les victimes de l'islamisme, il faut toujours se le rappeler, sont 10 fois supérieures, peut-être même 100 fois supérieures dans les pays musulmans, plutôt qu'en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique ou en Asie, où il y a eu aussi beaucoup d'attentats qu'on oublie trop souvent. Et je crois que dans cette nervosité du monde musulman, nous devons travailler, parler aux responsables de ces peuples, et il ne fait aucun doute que, par exemple, l'accueil que la Turquie, pays certes laïque, mais majoritairement, très majoritairement musulman, l'accueil que la Turquie fera au pape, disposera l'opinion publique européenne, qui n'est pas seulement catholique, elle est aussi protestante, elle est également orthodoxe, mais cette opinion publique européenne sera mieux disposée à la Turquie si l'accueil du pape en Turquie se passe dans de bonnes conditions. Je crois que c'est fondamental. Le pape n'est pas un personnage politique, il ne va pas faire de politique en Turquie, mais indirectement, il est sûr que l'amitié que le pape montrera vis-à-vis de la Turquie, si elle est payée de retour, sera bénéfique à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, si la Turquie elle-même, qui a son gouvernement responsable, souhaite maintenir ou approfondir sa candidature en Europe.
C'est l'importance aussi des symboles, des gestes posés, c'est là que l'on peut positivement, je dirais, vulgariser peut-être le dialogue qui se passe à d'autres niveaux et dans d'autres sphères, peut-être plus intellectuelles.
Il est sûr que les sociétés ne communiquent pas seulement par le discours, par les écrits, elles communiquent beaucoup plus par des gestes symboliques. Pour rester dans le registre où nous sommes en train de parler, le fait que Jean-Paul II ait été le premier pape dans l'histoire à être entré dans une mosquée, et dans deux mosquées en particulier très prestigieuses, comme celle de Damas ou celle d'El-Azhar au Caire, je crois que ce genre de geste symbolique compte beaucoup plus pour l'ensemble de la population que ce dont je viens de parler, à savoir écrire l'histoire en commun. Vous avez tout à fait raison.
C'est aussi l'importance des gestes et du symbole que cette visite au Fanar et au patriarche Bartholomée Ier.
Évidemment, il ne faudrait pas oublier le but premier de cette visite. Mais je crois que l'histoire se fait comme elle se fait. Et ce qui arrive là, j'allais dire, n'est pas un accident de l'histoire. Nous vivons dans un monde complexe où ce type d'interférence est tout de même fréquent. Il appartient justement à l'évêque de Rome, le premier de tous les évêques catholiques, de maîtriser ces aléas de l'histoire et de faire ceci sans omettre cela. Et naturellement, je ne peux que me réjouir extrêmement vivement de la visite de Benoît XVI à Bartholomée Ier. Le geste de paix, de prière en commun qu'ils feront est évidemment fondamental pour l'avenir du dialogue entre chrétiens qui a des bases dogmatiques dans notre baptême qui est commun et quand il s'agit de l'Église orthodoxe et de l'Église catholique où pratiquement l'ensemble de notre foi est commune, ce qui nous sépare est beaucoup plus la manière dont l'Église doit être gouvernée, la place des Églises locales, la place des traditions particulières dans une Église universelle, ce qui ne met pas en cause le fondement même de la foi chrétienne et de la vie chrétienne.
C'était le père Hervé Legrand, dominicain et professeur à l'Institut catholique de Paris, interrogé par Bernard de Cotigny.